Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Dans les ressorties du mois de juillet, nous parlons de L'œuf du serpent d'Igmar Bergman, de L'aura nue de Niccolo Ferrari, de The Party de Black Edwards et de Blood Simple des frères Cohen en compagnie d'Alexis Yomet et Marc Moquin, cofondateurs de Revue et Corrigé. Dans l'actualité des ressorties de ce mois de juillet, débutons avec un film assez méconnu, L'œuf du serpent d'Igmar Bergman, réalisé en 1977, qui ressort le 4 juillet avec David Carradine, Liv Ullmann, Heinz Bennett et Gert Fröbe, à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de Bergman, mais nous en parlerons plus longuement à la rentrée. Nous sommes à Berlin en 1923, Abel Rosenberg, joué par David Carradine, se sent triplement étranger puisqu'il est juif, américain et chômeur. Alors qu'il se perd dans l'alcool, il découvre le corps de son frère Max, suicidé d'une balle dans la bouche. C'est la première séquence du film, je veux dire, assez magistrale. Interrogé par le commissaire, il a l'intuition qu'on le soupçonne de plusieurs meurtres perpétrés dans le quartier. Il se réfugie auprès de Manuela, campée par Liv Ullmann, ancienne compagne de son frère, qui joue un numéro dans un cabaret des bas-fonds. En janvier 76, donc quelques mois avant le tournage, Bergman est arrêté pour fraude fiscale en Suède. Il risque 2 ans de prison. Une violente polémique envahit le pays. Le cinéaste fait une dépression. Il est hospitalisé. Il décide de fuir la Suède. À ce moment-là, le producteur Dino De Laurentiis et le coproducteur allemand Ort Wendland, est-ce que je le prononce bien, Wendland, lui propose alors de financer son premier long métrage tourné à l'étranger. Bergman est alors à l'époque auréolé du succès de Scènes de la vie conjugale et de La flûte enchantée. Il se voit proposer un important budget dont il n'était pas vraiment coutumier. Il accepte de tourner en anglais pour la première fois, et la dernière il me semble. Le film jouit de décors époustouflants créés par Rolf Zehetbauer. Avec les studios de la Bavaria, il s'applique à reconstituer cette rue berlinoise, la Bergmannstrasse, elle porte bien son nom, découverte par le cinéaste suédois sur un dessin au fusain. Ces mêmes décors seront d'ailleurs utilisés quelques années plus tard par Fassbinder pour son Berlin Alexanderplatz. Bergman a cherché longtemps son comédien principal. Dustin Hoffman avait été longtemps envisagé avant que le rôle n'échoue à David Carradine. Échec à sa sortie, le film demeura comme une expérience un peu difficile pour Bergman, qui n'était pas habitué à de telles productions. Marc, qu'en retenir de ce curieux film de Bergman qu'on a du mal véritablement à situer dans sa filmographie?
Voilà, il a toujours été un peu à part, et c'est peut-être pas plus mal en fait de le mettre un peu à part, parce que Bergman, c'est un cinéaste qu'on a souvent, et que souvent encore, on met dans une case ou dans des cases. Bergman, c'est souvent le côté, on ne pense qu'au septième saut, le noir et blanc, Von Sydow, la partie de l'échec, etc. Et or, quand on se penche sur la carrière de Bergman, elle est en fait constituée quand même d'un certain nombre de films qui ont vraiment exploité des approches du cinéma différents, des films très formalistes, des films plus libres parfois, des films moins rigoureux sur la cinématographie, enfin moins visuels en tout cas. Et donc, c'est peut-être assez intéressant de se dire, voilà, il est capable de faire ce genre de films un peu à part, de grosses productions malgré lui, où il se retrouve sur un film historique, à costume. Alors, c'est pas son premier film historique, mais là, on est quand même dans un film qui, somme toute, a une approche classique du film historique, reconstitution de l'Allemagne, comme l'a dit la voix off au début, d'une époque de l'Allemagne où un paquet de cigarettes valait 4 milliards de marques. Et donc, voilà, il y a un film qui a tout pour être une relecture classique de cette époque de l'Allemagne, avec donc ce gros budget, qui pourrait sombrer éventuellement dans l'académisme. Bergman n'est pas d'ailleurs hyper à l'aise avec l'anglais, il dirige moins simplement par rapport aux Suédois. Il est néanmoins quand même entouré de Liv Ullmann, qui était évidemment sa grande muse de l'époque, et qui continuera à diriger par la suite quand il sera revenu en Suède, parce qu'il finira par être acquitté de cette histoire de cette malheureuse histoire de fraude fiscale. Mais voilà, et ce qui est intéressant dans l'œuvre du serpent, c'est qu'il tente des choses. Vous avez d'un côté le côté fresque historique, le drame, et le dernier tiers du film prend un tournant assez inattendu. Il commence à mêler le thriller, le film d'angoisse même, à quelques moments. on est dans une époque de l'Allemagne où il y a le fascisme ou le nazisme en toile de fond. On parle du coup d'État avorté d'Hitler à un moment. Et tout le dernier acte du film devient voilà, presque un film d'horreur. En fait, on croise un savant fou qui mène des expériences. On se perd dans des labyrinthes hospitaliers où on mène des expériences pas franchement normales, dans une Allemagne qui est, on va dire, en roue libre. Et c'est intéressant voilà, de dire que Bergman, dans ce film un peu à part, se permet justement d'explorer ces genres cinématographiques différents pour ce qui n'est peut-être pas son meilleur film. Il a quand même aligné un certain nombre de chefs-d'œuvre. L'œuvre du Serpent, qui est un film que néanmoins j'aime beaucoup, n'en fait pas partie. Et qui pourtant voilà, vient rajouter une pierre, vient rajouter un maillon à une filmographie qui est richissime et qui sera d'autant plus redécouverte à la rentrée pour la grande rétrospective Bergman.
Autre ressortie, c'est là d'un film totalement méconnu, même inédit, un film de Niccolo Ferrari, Laura Nu, réalisé en 1961, qui sort en version restaurée le 18 juillet, avec Giorgia Moll et Riccardo Garone. C'est l'histoire de Laura, une belle et jeune italienne, qui épouse Franco pour se plier aux convenances. Très vite, elle s'ennuie dans son ménage et n'éprouvant aucun amour pour son mari, elle va chercher le bonheur auprès d'autres hommes. C'est ainsi qu'elle rencontre Marco, un jeune professeur qui devient rapidement son amant. Le film donc n'a jamais été distribué. Il est réalisé par Niccolo Ferrari, réalisateur, il faut bien le dire, peu connu, seulement de quelques documentaires et de deux fictions. Il fut tout de même l'assistant de Mauro Bolognini sur Le Bel Antonio et on retrouve d'ailleurs un peu cette même veine sociétale. Le film a subi en Italie, et quand je raconte un peu l'histoire du film, on peut le comprendre, il a subi en Italie à l'époque la censure préventive sur son scénario, puis une campagne contre sa diffusion de la part d'organismes surtout liés à la critique catholique qui le qualifia de film moralement négatif et subversif. Une femme qui ne se satisfait pas dans la situation dans laquelle la société patriarcale voudrait l'enfermer, un mariage conventionnel, une femme qui assume son désir pour d'autres hommes, évidemment, ça ne plaisait pas à tout le monde. Une œuvre néanmoins extrêmement juste et lucide sur le mariage et l'émancipation, sur les faux-semblants, où l'on joue tous un rôle, comme le dit d'ailleurs l'un des protagonistes à un moment donné du film. C'est aussi un film assez amer sur la déception amoureuse et la dépression natale. Il y a une scène, un moment d'une femme qui vient d'accoucher, qui est dans un état totalement dépressif, chose qu'on filmait très peu à l'époque. Un regard que porte Ferrari sur la société est très moderne et encore pertinent aujourd'hui. Citons également que la science du film se situe à Vérone, photographiée par Luigi Zani, dont c'est l'unique long métrage en tant que directeur de la photo. Et ça n'est pas lui rendre justice pourtant, puisque la photo est magnifique. Et on retrouve un peu une sensation de nouvelle vague dans la mise en scène, rappelant encore là le Bel Antonio. Et puis, on termine bien sûr par la superbe présence de Giorgia Moll, qui est absolument magnifique, incandescente, sublime. Bref, un film totalement méconnu à découvrir dès le 18 juillet.
Laura, non ti vergogni, ma lo sai che ora è? Sono quasi le 10. Quando sarai sposata sarà diverso. Lo sai, dipende solo da te.
Non ho mai pensato di essere un peso per voi. Per voi è sempre come se avessi 3 anni.
Ecco che cosa succede a viziare i figli. Ora smettila di fare i capricci.
Saremo felici.
Cosa ti passa per la testa?
Stavo pensando agli uomini, ai ragazzi che ho conosciuto.
Ormai agli uomini ci sono abituato. Mi sembrava che queste cose potessero sostituire l'amore. Tutti uguali e sognate di essere padroni di un'area.
Ma tu non sei una donna, non lo sei ancora.
Mi sento l'ultima delle donne. E vorrei stimarmi un po' di più.
Parli della tua libertà, ma che cosa ti serve?
Se uno non si sente libero, che cosa vive a fare?
Changement de registre avec la partie de Black Edwards, The Party, qui ressort régulièrement, mais qui la ressort le 18 juillet avec Peter Sellers. C'est un film d'été parfait. Alors, cette histoire de cet acteur indien, est-ce que je vais bien le prononcer, Rundi Bashki, qui est engagé par un studio hollywoodien pour interpréter un soldat indigène dans un remake de Junjadin, mais faisant preuve d'une terrible maladresse, il fait exploser le coûteux décor. Exaspéré, le producteur demande à ce que le nom de Bashki soit inscrit sur une liste noire, mais suite à un quiproquo, le comédien indien se retrouve en fait invité à la soirée annuelle du studio. Le comédien indien, est-ce que c'est utile de le dire, est campé bien sûr par Peter Sellers. Troisième collaboration du tandem Black Edwards-Peter Sellers, après bien sûr les deux premiers volets de La Panthère Rose. C'est un chef-d'œuvre du burlesque qu'on peut voir à mon avis indéfiniment, constamment inventif jusqu'à l'absurde, proche d'une certaine folie comique. Cette façon unique de faire durer le gag, notamment dans la première scène où Peter Sellers est censé mourir, et ça, ça dure très très longtemps. C'est aussi une critique acerbe de la société du spectacle et du paraître dans cette soirée très très bien filmée, parce qu'il y a aussi évidemment de la mise en scène derrière. Il faut savoir que le scénario était relativement succinct, 60 pages, le reste reposant sur les improvisations de Peter Sellers. Et puis d'un point de vue purement technique, Black Edwards fut l'un des premiers, on est en 68, à utiliser le retour vidéo, ce qui se faisait assez peu à l'époque. Quant à Peter Sellers, existe-t-il encore un adjectif qui pourrait résumer ce qu'il fait à l'écran? Génial, extravagant, subversif, inimitable, sans doute tout cela à la fois.
Excuse me sir, but are you not Wyoming Bill Kelso, the famous film star?
That's me, in the flesh.
Oh God, what a moment in my life. Oh sir, I've seen every one of your films.
Oh well, that's what wonderful, wonderful.
Oh, what a wonderful strong grip you've got.
Oh yes I do.
Goodness, I would have been disappointed if you hadn't crushed my hand. Oh, listen. Would you do me the honor to sign me an autograph?
Oh, sure. Here, hold this. Oh, I'll be glad to.
I'm also in the acting profession, you know.
Oh, you are?
Yes, indeed. I'm not in your quality, but I am also an actor.
What's your name?
Hurundi. H-R-U-N-D. Wait till I tell them at home that I met him. They will never believe me.
Where are you from?
I'm from India.
That's your engine.
Oh, not you. Bang howdy, partner.
Pretty quick on a drive.
Never,
right?
I believe in all my whole life I would meet him and he would go bang, partner. Listen to me. Like a man that's speaking with forked tongue. You old haunted, buddy.
Cute little fella, isn't he?
I know all your sayings. I know all of them. All of
good.
Them.
Randy,
the one where you walk along and then you go...
Et on termine avec Blood Simple de Joel et Ethan Coen, réalisé en 1984, premier long métrage de la fratrie qui ressort le 25 juillet avec Frances McDormand, John Gates, Dan Hedaya et Emmett Walsh. Abby se voit offrir par son mari, Abby c'est Frances McDormand, par son mari un revolver à crosse de nacre, mauvaise idée car l'épouse insatisfaite s'empresse de l'utiliser contre lui. Elle s'enfuit à Houston avec Ray, son amant. Marty, dragueur malchanceux, abandonné par sa femme, a engagé un détective privé, pour surveiller son époux volage. C'est le premier film des frères Coen, Alexis, mais tout est en place. C'est un hommage déjà au film noir américain. D'ailleurs, le titre original est tiré d'une réplique de La Moisson Rouge de Dashiell Hammett, ce que je ne savais pas, mais à la sauce Coen, évidemment inclassable.
Voilà, puisque c'est aussi un film à la fois somme pour tout ce qu'ils vont développer derrière, puisque si on le revoit aujourd'hui, forcément, on va penser à Fargo, on va penser à No Country for Old Men, mais c'est un film qui n'est pas encore complètement dans l'humour noir assumé. Ça reste quand même en suspens, c'est un petit peu dans l'air, c'est l'ambiance quand même reste lourde. C'est un film quand même très, on va dire, très sérieux, très premier degré. Après, justement, les personnages, c'est aussi toute une bande encore de losers, tous ces losers magnifiques qui ponctuent toute la filmographie des frères Coen. Donc c'est un film très très intéressant, surtout à revoir maintenant rétrospectivement par rapport à tous les autres films, puisque c'est vraiment un film où on retrouve quasiment peut-être pas toutes leurs thématiques, mais en tout cas les principaux sur forcément l'objet qui identifie, qui est tout un symbole à travers le film, qu'on retrouve aussi dans tous leurs autres, que ce soit les films comiques ou les films un peu plus sombres. Donc c'est vraiment curieux, parce que si les gens ils vont le voir en imaginant qu'ils vont rigoler parce que va y avoir des séquences un petit peu cocasses, pas forcément, faut plutôt se l'imaginer en le revoyant No Country for Old Men, où c'est vraiment un film dur, assez profond, même s'il y a des séquences vraiment qui sortent de l'ordinaire. Puis Frances McDormand qui est extraordinaire, qui reviendra pour Fargo et pour le meilleur en fait.
What I know about is Texas. Down here, you're on your own.
Hello.
Have a good time?
Hey, who is it?
Your husband.
I got a job for you.
not strictly legal.
You want me to kill him?
Ray, let's get out of here.
What do you want to do?
What do you want to do?
What's funny is if it's not you she's sleeping with, it's someone else. What's really going to be funny is when she gives you that look and says,
I don't know what you're talking about.
He looks stupid now.
Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.